Salut à toutes et bienvenue sur Studio Zef. C'est l'heure d'écouter Et si on en parlait ? À l'occasion de la semaine pour les alternatives aux pesticides, l'association Sologne Nature Environnement a proposé la visite d'une ferme biologique.
La ferme ? Quelle ferme ?
La ferme des Bissolières à Cheverny. Pendant une après-midi, les participants ont suivi Pascal Cazin sur quelques parcelles de son exploitation. Une exploitation morcelée sur plus de 12 km et qui comprend des cultures de céréales et des élevages de brebis et de volailles. Caroline Leménissier, chargée de mission à Sologne Nature Environnement, nous présente le projet.
C'est l'association Sologne Nature Environnement qui est l'initiative de la visite. On organise ça dans le cadre de la semaine pour les alternatives aux pesticides, qui est un événement dans lequel nous, on essaye de faire découvrir les producteurs locaux qui font autrement, justement, sans pesticides. On connaît Pascal Cazin parce qu'on a un réseau d'adhérents et de bénévoles qui est assez grand à l'association et est très impliqué sur les modes de production agricole bio. C'est le réseau qui nous a permis de trouver Pascal Cazin.
Pascal Cazin, donc moi je suis effectivement agriculteur, éleveur à Cheverny là depuis 1998. Voilà. Donc juste en quelques mots, je suis un agriculteur biologique là. La ferme et les produits issus de la ferme sont certifiés bio depuis 2003. Quoi.
Si je comprends bien, vous avez commencé, vous n'étiez pas en bio.
Quand je me suis installé, donc au départ c'était un projet avec uniquement un élevage de brebis quoi. Et il s'est avéré qu'économiquement, ça serait pas rentable ça serait vraiment très difficile. Et dans ces moments-là, il y avait eu un projet de monter un groupement de producteurs de volailles bio. Je me suis intéressé au projet et je me suis lancé. J'ai monté un bâtiment de 200 m² pour faire de la volaille en bio, de la volaille de chair. Bon, et en même temps, ça confortait un petit peu mon projet d'installation. Quoi. Donc j'ai démarré la volaille en bio en 98. Quoi. Et après, il s'est avéré qu'étant en plus dans un réseau de copains et qui étaient en bio, quoi, ça s'est fait. Disons que le fait de démarrer en bio dans un système élevage, culture et tout, bon, ça peut faire un petit peu peur. Quoi. Bon, c'était il y a déjà 20 ans. En 20 ans, on a énormément avancé sur la bio, tant au niveau de du nombre d'agriculteurs qui sont convertis que de la technique. Quoi. Donc, c'est vrai que bon, il y a 20 ans.
C'est plus facile aujourd'hui.
Ça me semblerait être plus facile aujourd'hui. Quoi. Parce qu'il y a davantage de recul, il y a quand même tout un énorme réseau qui est en place. Quoi. Donc, voilà. Mais bon, moi, ça s'est fait assez simplement dans le sens où, les trois quarts de ma surface étaient en herbe. Donc des surfaces que je conservais en herbe et qui étaient déjà en herbe, en jachère depuis des années. Donc ça s'est fait assez simplement. Je dirais que peut-être le plus compliqué, ça a été peut-être au niveau des cultures. Parce que je voulais faire un maximum de cultures pour nourrir mon cheptel. Donc là, c'est vrai qu'en culture, bon, j'avais pas beaucoup de recul et je me suis lancé un peu à l'aveuglette, quoi. Enfin, à l'aveuglette, voilà. J'ai semé, j'utilisais pas de désherbant, j'utilisais pas de pesticides d'une façon générale, quoi. Donc je semais, je récoltais, quoi.
Et alors, vous avez été aidé par des organismes au niveau conseil technique
conseil technique, c'était plus dans le réseau des agriculteurs bio déjà du département, quoi. Parce que bon, ça c'est les agriculteurs bio étaient déjà structurés dans le Loir-et-Cher là au sein du Gablec, quoi. Mais disons qu'on n'a pas vraiment de techniciens bio, quoi, que ça soit au niveau de la chambre d'agriculteurs.
Les agriculteurs qui veulent se lancer, ils ne savent pas à qui s'adresser, quoi. Ils sont tout seuls dans la nature, oui et non,
parce que je vous dis, on est quand même pas mal structuré, et c'est vrai que directement...
Un bouche à oreille qui se fait tout seul, quoi.
Oui, voilà, et puis après, faut aussi vouloir rentrer dans le réseau, quoi.
Oui, oui. J'ai travaillé pendant 37 ans à la chambre d'agriculture, oui. Et au début, c'était interdit par les agricultures biologiques.
Ah oui, oui.
On a eu un technicien qui s'est... en douce, qui s'est inséré, Et à partir d'un certain moment, ça y est, ils s'y sont mis. Et maintenant, il y a un service quand même d'agriculture biologique.
Je vais vous inviter peut-être à vous regrouper dans les voitures, comme ça on va pouvoir continuer la discussion, mais sans les bruits des, des pots d'échappement ou des voitures qui passent.
Tu veux qu'on en parle ?
Donc voilà, donc c'est du compost qui est après étendu sur, sur toutes les surfaces sur lesquelles je fais des céréales et une partie sur, sur les herbages. Quoi. Donc tous les ans, j'étends mon fumier composté sur à peu près une vingtaine d'hectares. Une vingtaine d'hectares sur à raison de 5 à 10 tonnes hectares. Quoi. Je vais aller vous chercher, ben, j'arrive.
Vous
pouvez rentrer. Hein.
Vous visitez souvent des fermes comme ça ?
Non, mais je suis très intéressée par l'agriculture biologique. Je me suis battue personnellement pour tout ce qui est bio. Et je trouve que c'est formidable que des gens puissent continuer à s'investir, à persévérer.
Parce que concrètement, à la Chambre d'agriculture, quand on nous interdit de faire du bio, ça veut dire qu'on est viré si on parle de bio ou...
C'était interdit par les techniciens. Moi, je sais que le premier technicien chez nous qui a fait ça, alors je vous parle de ça, moi, ça fait 17 ans que je suis en retraite. Et ça remonte à très longtemps, 37 ans, un peu plus de 37 ans. Et les techniciens avaient toute une formation autre que bio. Et puis quelqu'un s'y est mis et c'est passé. Maintenant, il y a un service bio à la chambre, ce qui est quand même...
On passera voir les voilà.
Et vous avez participé à l'instauration de ce service ?
Non, pas du tout. Moi, j'étais simplement secrétaire, mais je suis très, très, très motivée.
Des moutons bleus, ouais. Il y en a même des jaunes, des verts. Bah, pendant qu'on est là, ouais, je vais vous parler. Ouais, ça va être un petit peu en vrac, la présentation de l'exploitation. Mais...
Donc au jour d'aujourd'hui, j'exploite une centaine d'hectares. Une centaine d'hectares avec un troupeau de 350 brebis. Donc en fait ça ce sont des brebis qui ont mis bas il y a à peu près un mois et demi pour les plus vieux quoi. Parce que j'ai à peu près la moitié de mon troupeau qui va mettre bas sur novembre-décembre. C'est-à-dire que j'essaie de faire un petit peu du dessaisonnement mais naturel, hein. C'est-à-dire que très tôt en saison je mets les béliers avec les brebis quoi. En utilisant des races qui naturellement peuvent venir en chaleur très tôt en saison quoi.
Ah oui, ça dépend de la race, ça dépend.
Ouais, c'est beaucoup conditionné à la race quoi. Pour ça que vous verrez que j'ai un peu multi-race dans mon troupeau quoi. Et après j'ai l'autre moitié du troupeau qui met bas à partir du 20 février. Donc en fait je garde les brebis dehors au maximum tout l'hiver. Cette année on a eu un hiver exceptionnel, j'ai rentré des brebis au 15-20 janvier. Donc ces brebis-là ont été rentrées quoi, un mois et demi, quoi, le temps une petite préparation à la mise bas, qu'elle mette bas, puis après je remets dehors. Quoi. Et donc l'autre partie du troupeau qui est agnelle novembre-décembre, là par contre je fais tous les agneaux qui naissent sur novembre-décembre sont élevés à l'intérieur, c'est-à-dire au lait de la mer, au foin et au grain. Quoi. Et après, dès que les agneaux ont atteint l'âge de 3 mois, je sèvre à peu près à 90 jours, je sèvre les agneaux et je remets les brebis dehors, quoi, le plus tôt possible. Quoi. Mon but, c'est, j'ai pratiquement 80 hectares d'herbe et une vingtaine d'hectares de céréales. J'ai un chargement à l'hectare qui est relativement faible, ce qui me permet d'avoir beaucoup d'herbe et de pouvoir avoir mes brebis dehors le plus longtemps possible. Quoi. Là, je vois cette année les dernières qui ont mis bas, oui, elles ont été rentrées même pas 3 semaines avant l'agnelage. On nourrit un petit peu dehors, mais tout en restant à l'herbe. C'est des agnelages qui sont... Enfin, ça se passe super bien. Quoi. Et plus elles sont dehors, moins elles s'en occupent.
Oui, voilà.
Donc c'est pas mal non plus. Quoi, parce que
et puis il n'y a pas d'apport à...
Bon, on complémente un peu l'hiver quand même. Hein. Bon, cette année, c'était particulier parce qu'on a eu un automne, on a eu une pousse d'herbe à l'automne et même pratiquement jusqu'au mois de décembre. Hein. Mais généralement, on complémente toujours un peu un mois et demi avant la mise bas. Quoi. Voilà, donc maximum d'herbe. Au niveau de l'apport de céréales sur les brebis et les agneaux, c'est à 95% issu de l'exploitation. Le peu que j'achète, ça va être des bouchons de luzerne déshydratés, mais en bio, quoi. Et encore, ça reste très local, parce qu'on a la possibilité de travailler avec des céréaliers de l'Eure-et-Loire, là, bio.
et qui, dans leur rotation, font rentrer des luzernes et qui ont la chance d'être à côté d'une usine de bouchonnage de luzernes, quoi. Donc en fait, ils récoltent leur luzerne en foin, ils la font bouchonner, et bon, pour des raisons pratiques, même de transport.
Ouais, un
bouchon de luzerne, en fait, c'est vous prenez de la luzerne, elle est faite en foin, et après, c'est passé dans une machine où elle est comprimée.
C'est un granulé.
Ça fait un granulé, voilà, ouais. Donc c'est très facile à transporter, et c'est surtout que l'animal consomme tout, aussi bien la tige que la feuille, quoi. Que l'inconvénient de la luzerne... C'est une super plante parce que bon, elle est forcément riche en protéines. Mais si elle est faite un peu tard et tout, qu'on a une tige épaisse, les bêtes vont trier. En fait, ils mangent que la feuille, quoi. Alors que là, comme tout est aggloméré, quoi, ils mangent tout, quoi. Voilà, c'est à peu près le seul aliment que j'achète à l'extérieur. Et après, bon, quelques des minéraux aussi. Et c'est pareil, toujours d'origine de source bio, quoi.
Donc en fait, là, ce sont des prés. Moi, j'ai 53 ans. On ne peut pas dire que je les ai toujours connus, parce que c'est une époque que je n'étais pas dans les prés. Mais je pense que c'est des surfaces. Ça fait peut-être 80 ans que c'est en herbe, quoi.
D'accord. Oui.
Donc je dirais que moi, ça serait un petit peu mon rêve d'avoir que des parcs dans cet état-là, bordés de haies. Bon, plus des prés de... C'est un secteur qui est relativement humide, mais en fait, il y a de l'herbe. Mmh. Il y a de l'herbe toute l'année.
Les haies ont une importance pour les animaux ?
Oui, pour l'avril, tout le temps, simplement. Mmh. Et puis après, voilà, après, tout simplement en termes de biodiversité. Ah,
non,
quoi. Mais c'est vrai qu'en termes d'abri, si, c'est hyper important. Hein.
L'ombrage aussi de la parcelle.
L'ombrage, ouais. Ouais, ouais.
Oui, c'est bon,
il pensait. Bien que le mouton, il est assez particulier. Hein. C'est pas parce que vous allez mettre un arbre dans un endroit où il vous semble...
Un petit coin sympa
qui va aller se mettre à l'abri, là. Mm-hmm. C'est en fonction des courants d'air, en fonction mm-hmm. de plein de choses. Hein. Mm-hmm. Des fois, on les voit en plein été, vraiment dans le milieu du parc, alors qu'il y a de l'ombre ailleurs.
Ah, oui, oui.
Non, c'est parce qu'il y a un courant d'air, il y a quelque chose qui fait qu'ils sont,
ouais.
Ils sont mieux
là,
quoi.
Bien là, quoi.
Est-ce que c'est une race qui est d'ici, ça ?
Alors, la race solognotte, comme son nom l'indique, oui, elle est origine, elle est bien origine.
C'est la race du coin.
Ouais, il y a une brebis solognotte,
ouais.
Qui était en effectif très important au début du siècle, quoi. Et puis, bon, qui a été laissé de côté pour différentes raisons. Il y avait eu, il y a très longtemps de ça, des problèmes de douves avec la Sologne qui est très humide, quoi. Et puis après, c'était un peu des problèmes de commercialisation, problèmes de conformation. C'est une race, c'est censé être une race rustique. Donc généralement, les races rustiques ne sont pas très bien conformées, ont les gigots assez longs et tout, quoi. Et il y a eu toute l'époque des années 70, 80 et tout, où on était sur l'utilisation de races bouchères avec des gigots très ronds et tout, à meilleur rendement, quoi. Et ce qui fait que cette race-là a pas mal été dévalorisée par rapport à ça, quoi. Mais il y a quand même une équipe de gens tenaces, d'éleveurs et tout, qui ont réussi à sauver cette race de la disparition. Ouais.
Une brebis, elle s'est dit combien de temps avant ? Enfin, vous la faites annuler combien de fois ?
Moi, les brebis, elles mettent bas pour la première fois entre 18 et 24 mois, quoi. Mais jamais avant, quoi. Je préfère les garder... plus longtemps pour qu'elles prennent vraiment de la conformation, enfin qu'elles aient le temps de grandir, quoi. Mmh. Et en fait, ça, bon, je perds un aignelage, mais en fait ça se passe mille fois mieux, quoi. Mmh. Elles font un aignelage par an et après elles vont aigneler jusqu'à l'âge de 6 ans, 7 ans. J'essaie d'avoir un troupeau le plus jeune possible et puis en meilleur état possible, quoi. Mmh. Parce que c'est qu'une brebis qui est en bon état, qui a toutes ses dents, qui a pas mal aux pattes et tout, je veux dire, elle va faire des agneaux, elle va élever son agneau sans problème, quoi. Et donc au début, effectivement, on a tendance à essayer de garder au maximum les brebis, de leur faire faire des petits et tout, mais en fait on se rend compte que c'est pas vraiment le bon choix, quoi. Parce qu'on passe beaucoup de temps à côté de ça, quoi, et c'est du temps qui est malheureusement du temps qui nous coûte trop cher, quoi.
C'était Sheep des Pink Floyd. Et on retourne sur l'exploitation de Pascal Cazin, éleveur à Courcheverny. Une des participantes nous explique les raisons de sa présence à la visite.
Je suis adhérente à SNE. Et ma voisine est Caroline.
Ah, donc forcément ça aide.
Je ne connaissais pas cette ferme. Je ne connaissais pas de ferme bio finalement.
Et vous consommez bio ou...
Oh, je consomme local, bio complètement non.
Certains produits
local,
peut-être.
Oui.
Ouais, local.
Je vais au marché, donc c'est un petit producteur de légumes. Je ne fais pas partie d'un MAP parce que bon, je suis assez souvent toute seule, donc j'ai pas besoin de prendre un panier. Mais enfin, j'en ai discuté avec Caroline, peut-être que ça m'intéresse de revenir à cette consommation différente, hein, franchement.
Et vous pensez quoi de la visite?
Extra. J'ai bu ses paroles. Je vais en oublier le trois quarts, mais fille d'agriculteur, donc ça m'intéresse tout ce qui est l'agriculture. Et celle-ci, cette agriculture, par rapport au conventionnel, comme vous dites, que ras-le-bol de mal manger, je trouve formidable que ce monsieur parle avec autant d'enthousiasme aussi. Ça, franchement, c'est carrément émouvant. Non ? Parce qu'il sait de quoi il parle, il connaît, et puis bien, et puis il a envie de faire partager. Je crois qu'il faudrait lui faire. Je suis désolée, j'habite Romorantin et je ne savais pas. C'est pas loin, Romorantin, pourtant.
Bon.
Alors, merci.
Il y a quelqu'un qui vous aide sur l'exploitation ?
Ouais, donc on est à. Donc j'ai une salariée à plein temps. Une salariée à plein temps et puis à peu près l'équivalent d'un mi-temps en occasionnel. Donc mi-temps occasionnel, c'est avant tout pour les périodes de vente. Donc entre autres j'ai un boucher. J'embauche un boucher, j'ai un charcutier oui, de nom qui me fait la transformation des réformes en saucisses merguez. Et puis après j'embauche du monde là quand on fait les ventes de volailles. J'embauche deux personnes sur les trois semaines quoi, pour me donner la main. En plus de l'abattoir. Donc moi les agneaux je les emmène à l'abattoir de Vendôme. Donc ils sont abattus à Vendôme, je récupère les carcasses et en fait j'ai un petit laboratoire de découpe et on fait la découpe sur la ferme. Mmh. Et après les volailles sont abattues à Auchan. Donc abattoir de volailles quoi. J'ai encore la chance d'avoir cet abattoir à 12 km, ce qui est bien quoi. Voilà, donc on est deux et demi à peu près à travailler sur l'exploitation. Quoi.
Et alors vous vendez toute votre production là, comme ça, là, en direct,
ouais.
Sur place,
ouais.
À la ferme.
Ouais, voilà, ouais.
En quelques jours.
Donc les volailles c'est sur donc c'est tous les 4 mois sur 3 semaines quoi. Et puis après on fait à peu près une vente d'agneaux en caissette par mois quoi. Mm-hmm. Une voire deux sur les mois de mai quoi.
Mais qui est-ce qui vous achète toute cette viande là? C'est des particuliers?
Des particuliers, ouais.
Ouais, ah, ouais. Donc vous faites de la publicité un peu?
Bah on a fait, ça s'est fait au départ du bouche à oreille, un petit peu de pub, ouais, mais beaucoup bouche à oreille. Hein. Ouais. Ouais, quelques portes ouvertes, marché à la ferme il y a quelques années quoi. Et puis maintenant c'est vrai qu'avec on a un petit site et tout quoi, donc par internet ça se fait aussi. Puis le réseau bio, hein, il y a les petits recueils, la manger bio à la ferme entre autres, qui sont mis à jour tous les ans, voilà. Fait par Biocentre, donc voilà quoi. Mais non, on fait pas voilà, je veux dire, on se promène pas avec la caravane publicitaire. Non, ça s'est fait avant tout bouche à oreille. Mmh. Ce qui fait qu'on a quand même une clientèle, solide et solidaire. Quoi. Donc il y a aussi un turnover hein, des gens, hein, parce que bah, comme tout le monde, les gens bougent. Mmh. Aujourd'hui on consomme comme ça, demain on consomme différemment. On a un public de consommateurs bio et de nos consommateurs non bio. Hein. Puis on essaie oui, d'entretenir notre clientèle par la qualité de nos produits quoi. D'avoir des produits de qualité, moi je suis ouvert aux critiques hein. contraire, plus souvent, c'est comme ça qu'on avance. Quoi. Des fois, je regrette qu'il n'y en ait pas assez. Quoi. Mais voilà.
Je vais dire, le local, c'est possible et ça marche.
Comment ?
Le local, ouais, c'est possible et ça marche.
Tout à fait, ouais. Ouais, ouais, on vend dans un rayon de, allez, je vais dire 40 km. Voilà, après, bon, il y a quelques exceptions, des gens de région parisienne et tout qui viennent faire des pleins et tout comme ça, mais c'est vraiment exceptionnel. Quoi.
Ouais, mais alors, ce qu'on peut se dire là, c'est que ça fonctionne parce que vous êtes presque tout seul à faire ça. Enfin, vous n'êtes pas nombreux. Voilà, si un jour vous êtes multiplié par 10, par exemple. Là, vous allez avoir une clientèle qui va être...
Non, je ne suis pas. Enfin, je suis pas tellement d'accord là-dessus. Je vois sur le département, en agneau, on doit être 6 éleveurs bio. On est tous en vente directe. Mm-hmm. Je veux dire, avec des circuits plus ou moins différents.
Oui, mais imaginez que demain, vous êtes 3 fois plus ou 10 fois plus de producteurs. Hein. Et qu'est-ce qui va se passer ?
C'est peut-être un peu prétentieux de ma part de dire ça, mais j'ai malheureusement pas peur. Oui. Parce que j'aimerais bien qu'on soit 10 fois plus.
Oui.
Pourquoi vous aimeriez bien ?
Vous savez, il y a combien d'agriculteurs qui disparaissent tous les jours,
oui.
Et combien s'installent. Je veux dire, on serait... Moi, vous voyez, sur la commune, j'ai un autre collègue qui est en conventionnel, qui fait de la viande bovine, qui fait des volailles, qui va faire du porc. Bon, c'est vrai, quand il s'est installé, bon, il était venu me voir et tout, il allait faire de la vente directe et tout. On n'est pas du tout sur le même créneau. Mm-hmm. Bon, après, effectivement, il serait en bio. Bon, bah, peut-être que ça va... Je veux dire, peut-être qu'il y a des gens qui vont aller chez lui, mais ça je veux dire, c'est facile de... Je dirais, c'est la loi du commerce. Hein. On peut pas... prenez l'exemple du maraîchage où il y a quand même beaucoup de maraîchers bio hein, qui s'installent et tout. Bon, jusqu'à ce moment, ça fonctionne parce que je pense que c'est bien structuré. Je pense qu'il y a une bonne prise de conscience aussi de la part des producteurs, quoi. Que c'est pas parce qu'on s'installe là aujourd'hui qu'on le fait pour manger son voisin. Non, c'est pour travailler ensemble. Et puis, je pense que des bouches à nourrir, il y en a plein, quoi.
Et vous pensez être capable d'augmenter encore votre production ?
Ah non, mais non, je...
S'il y avait de la demande, comme il n'y a pas de personnes qui s'installent, vous dites qu'il lui manque des producteurs.
Oui, bah si après... Après, moi, j'ai pas la prétention de... de couvrir...
Non, plutôt
de
l'intention.
J'ai pas l'intention de couvrir, comment dire, de couvrir les besoins en volaille bio de la population du département. Non, je veux dire, j'ai mon... Voilà, j'ai un poulailler de 200 mètres carrés, j'ai le parcours qui va bien à côté. Dans ce poulailler, selon le cahier des charges, je veux dire, je peux mettre mes 2000 volailles. Voilà, après, si je veux en faire plus, il faut que je reconstruise un bâtiment, il faut que je refasse un parcours, il faut que je rembauche du monde, voilà, il faut que je réinvestisse. Et moi, ça me... voilà, j'ai un outil de production qui me convient complètement, que je fais que de commencer, je dirais, à bien maîtriser. J'ai nullement l'intention de m'agrandir. Très honnêtement, si j'avais la possibilité de même de diminuer un peu en volume, je le ferais. Au niveau des volailles, oui, je le ferais, quoi.
Vous avez toujours fait de la vente directe ? Ou avant, vous fonctionniez ?
En fait, j'ai démarré la vente directe 2000-2001. Et les années auparavant, en fait, j'avais démarré avec des groupements de producteurs.
D'accord.
Donc groupement de producteurs pour les agneaux et groupement de producteurs pour les volailles, quoi. Et en fait, il s'est avéré que au bout de 3 ans, économiquement, c'était pas viable, quoi. En ovin, bon, je le savais malheureusement, quoi. Mais en volaille, on vendait à prix coûtant, quoi.
Bon, vous voulez aller voir les petits pois ?
Les petits pois.
Allons voir les petits pois.
Ils sont juste là.
Et là, au niveau de vos voisins, tout est bio autour de vous aussi ?
Non, tout est... je suis le seul en bio. Donc là, effectivement, dans la plaine, c'est une pleine convention.
Donc votre voisin, là, quand il traite, qu'il met beaucoup de pesticides, là, il traite votre champ en même temps, là, non ?
Bah, il traite son champ, mais oui, il y en a qui va sur mon champ. Hein.
Ouais. Ouais.
Enfin, je veux dire, c'est impossible d'avoir du 0%. Moi, la dernière discussion que j'avais eue avec un de mes voisins, c'est qu'effectivement, c'est le discours. Ça n'a pas de sens, mais on ne peut pas nourrir la planète avec le bio. Quoi.
Ah oui. Ah, oui.
Pour l'instant, on n'a pas la prétention d'ouvrir la famille.
Quand les animaux en auront plein le dos, on aura beau recoller nos copeaux, on aura beau, on sera pas beau sans nos baleines, nos éléphantaux. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. On sera tout moche et laid, ça on le savait. On sera vilain, pas beau, wow, wow. Dans nos parures d'animaux, s'en aura Toto. Les facochères et les coléoptères qui préfèrent vivre autrement sur terre. Wow, wow, on sera pas beau. Wow, wow, sans nos animaux. Quand cloué au poteau, on verra passer les corbeaux. Faut pas trop, wow, jouer avec la vitre. On aura beau, on sera pas beau, c'est pas la même sans nos crocos hipporinos. Wow, tout moche et laid, ça on le savait, on sera vilain, pas beau, wow, dans nos parures d'animaux, s'en aura tout haut, wow, wow, on sera pas beau, wow, wow, sans nos animaux. Wow, wow, on sera beau, wow, wow, sans.
C'était Les Animaux des Têtes Raides. Vous êtes toujours à l'écoute des Si on en parlait sur Studio Zef, et on en parle de l'agriculture biologique. C'est même une consommatrice qui nous en parle et qui nous dit comment elle y a été sensibilisée.
C'est surtout de bouche à l'oreille. Et après, par curiosité, je lis beaucoup. Donc, je cherche. Pour les AMAP, j'ai lu pas mal de choses. Donc, je suis au courant comment ça fonctionne. Mais je ne fais pas partie d'une AMAP. Donc.
Il y a quelque chose qui vous freine ou...
Oui, il y a quelque chose qui me freine. Je ne sais pas ce que c'est exactement. Mais voilà, j'ai un tout petit peu du recul par rapport des AMAP. Par contre, je suis prête à acheter sur un marché bio d'un producteur...
Et là, les visites, pour savoir plus...
Par curiosité, pour découvrir un tout petit peu les fermes de la région. Donc, ça me fait un plaisir. Je connaissais un tout petit peu l'activité de M. Cazin. Donc, je voulais voir avec mes propres yeux comment ça se passe. Et c'est une belle découverte, hein, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est...
Tout à fait.
En plus, pour moi, ça me permet de comparer, parce que je suis bulgare d'origine. Donc, je compare avec ce qui est...
C'est très différent.
On revient ici, un peu en arrière, et on découvre l'agriculture traditionnelle de là-bas.
Merci.
Donc maintenant, vous allez me donner les races. Hein. Je pense que vous avez bien écouté.
Et la solognotte, c'est avec la tête noire.
La solognotte avec la tête noire.
Non, c'est l'anglaise.
Aïe, 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 ça commence mal. Non, solognotte, c'est la tête marron.
Marron.
Et cette noyée-là, la deuxième...
Voilà, le petit à la tête rouge, c'est du charmois. Voilà, celui qui a à notre gauche là, c'est un charolais. Voilà, et puis après les autres, comme le petit blanc, c'est des béliers, c'est des agneaux que j'ai gardés sur mon exploitation. Depuis 2 ans, là, j'essaie de garder des béliers de mon exploitation. Donc à un moment, dans le but, c'était de faire un peu des échanges avec des collègues, quoi, pour éviter d'avoir de trop aller acheter des béliers dans des élevages un peu trop sélectionnés, quoi.
Et vous les faites soigner par des vétérinaires ?
En fait, c'est moi le vétérinaire. Ce qui est important, c'est nous en tant qu'éleveurs, observer ces animaux. Voilà, ouais, je veux dire, après, pour tout ce qui est allopathie, effectivement, on va vers des vétérinaires parce que, effectivement, seuls les vétérinaires sont censés délivrer sur ordonnance ces produits-là.
Il n'y a pas de vétérinaire bio, quoi.
En fait, quelque part, vétérinaire bio, ça veut pas dire grand-chose. Allez, on va dire qu'il y a des vétos bio, voilà. Mais un veto bio, c'est quelqu'un qui s'intéresse à... qui a une approche globale,
oui.
globale
oui,
de l'animal, du troupeau,
oui, oui, oui.
De l'exploitation.
Oui. Mais le cahier des charges de la bio vous autorise quand même à utiliser
ouais.
de l'allopathie.
Ouais. Hein. Ouais, ouais. Bah, je dirais que quelque part, heureusement, on laisse pas... Je veux dire, on va pas laisser mourir les animaux.
Non, mais vous avez des traitements de substitution.
Oui, il y a la phytothérapie, il y a l'homéopathie, il y a tout ça qu'on peut utiliser. En ovin, par exemple sur une brebis, pour pas qu'elle perde sa certification, elle peut avoir jusqu'à 3 traitements allopathiques. C'est-à-dire que vous pouvez lui faire un vermifuge. Si, mettons qu'elle a un problème de mamelle ou je sais pas, qu'elle se blesse, qu'elle a besoin d'un antibiotique, vous pouvez lui faire un antibiotique. Et puis, un insecticide si elle a des poux, quoi. Voilà. Mais en aucun cas, vous devez faire ces 3 traitements. Je veux dire, moins vous en faites, mieux c'est, quoi.
Et si on dépasse les 3 traitements ?
C'est déclassé.
Du coup, si je viens chez M. Cazin acheter ma viande bio habituellement,
ouais.
et qu'une année vous avez eu un problème et que du coup vous avez été déclassé, finalement je ne peux pas le savoir.
Bah si, parce que j'aurais pas le...
Sauf si vous me le dites vous.
Oui, mais normalement je suis censé vous montrer un certificat. Je veux dire, à la suite du contrôle, il nous délivre une attestation. Donc vous, en tant que consommateur bio, vous êtes en mesure et vous êtes...
Donc il faudrait qu'on vous demande chaque fois l'attestation.
Ouais, si vous voulez, mais allez afficher, moi ça me gêne pas. Hein. Je veux dire, quand on se déplace sur un marché, on est censé emmener... Sur un marché bio, on est censé emmener nos attestations, notre certificat.
Ouais.
Et c'est normal. Après, tout le monde se dit bio. Hein. Les gens qui me disent je suis presque bio, bah non, t'es bio ou t'es pas bio, quoi.
Je crois que le label est là pour éviter justement et que le consommateur puisse s'y retrouver et savoir vers quoi il va.
Quand on respecte un cahier des charges pour un label, que ce soit pour un vin ou pour un fromage, ou vous avez un cahier des charges, et vous avez le label ou vous ne l'avez pas, vous ne dites pas j'ai presque le label, quoi.
Oui.
Tu veux qu'on en parle ?
C'est vrai qu'il y a eu un très très très, très gros travail de fait sur la génétique là, dans les années, ouais, tu vois, pareil, là, les années 80, 90 et tout. Il faut que les animaux aient du lait, qu'il y ait une grosse vitesse de croissance pour le faire en moins de. Tu vois, et moi je pense qu'on en est revenu de ça. Hein. Si on veut utiliser le moins possible de médicaments, de pesticides, de tout ce que tu veux, faut tout simplement laisser la nature faire les choses.
C'est le temps.
Mais comme pour les végétaux, tout à fait, ouais. Ouais. Moi, j'ai l'exemple concret, pas très particulier, des volailles, où les volailles, c'est beaucoup plus carré comme élevage. Les premiers sont abattus à 90 jours. Enfin, c'est vraiment cadré. Bon, c'est comme ça. Ça ne me plaît pas tout le temps, mais des fois, j'aimerais bien arrêter un peu cette machine infernale. Bref, c'est comme ça. Et je me rends compte qu'il n'y a jamais une bande qui réagit de la même façon. Je veux dire, j'ai un protocole de soins là, en phytothérapie, homéopathie, où j'essaie de mettre en place, je mets en place rigoureusement la même chose. Il n'y a jamais une bande qui réagit de la même façon, quoi. Et c'est là qu'il faut être hyper vigilant, quoi. Parce que si on n'est pas vigilant, on se fait avoir, quoi. Et c'est vrai que je vois sur les volailles, en 2 jours de temps, il y a des choses qui se passent. Et si on n'est pas là pour observer, pour réagir, ben là, par contre, des fois, on peut morfler, quoi. Parce qu'on n'a pas de moyens pour stopper le problème. Quoi.
Oui, oui.
Là, c'est un peu ça la grosse différence avec le conventionnel. Le conventionnel, effectivement, ils ont sûrement une autre pression que nous, on a. Mais par contre, effectivement, il y a une maladie que tu traites. Voilà. Tu vas sauver ton potentiel de récolte. C'est une chose. Par contre, ça va te coûter la peau des fesses. Et puis voilà, puis c'est pas simple.
C'est pas simple. Quoi. Anticiper, quoi.
En bio, il faut anticiper. Ouais. Si on n'anticipe pas, on va droit dans le mur. Hein. C'est pour ça qu'il faut passer du temps avec les animaux, faut observer, quoi.
Bah oui. Je pense qu'à l'intérieur de vous-même, vous êtes heureux, même si c'est pas facile.
Oui. Non, mais moi, je suis complètement heureux dans ce que je fais. Je veux dire, je l'ai choisi, c'est ma passion. Les
gros agriculteurs au nord, ils sont pas aussi heureux que ça. Hein. Ils sont avec des énormes emprunts.
Moi aussi j'en ai eu des énormes emprunts. M'a pas toujours rendu heureux, ça, par contre. moi, ce que je disais encore tout à l'heure, on a toujours quand même cette pression économique. Bon, moi, ça fait une dizaine d'années là que j'ai une salariée à plein temps. On n'a pas droit à l'erreur, quoi. Moi, je sais qu'économiquement, c'est... Voilà, ça va faire, installé 98. Très honnêtement, il y a 2 ans où je suis un petit peu plus serein. Mais avec une marge qui est... Voilà, je veux dire, on n'a pas droit à l'erreur. Enfin, j'ai pas le droit de louper une bande de volailles.
Vous faites souvent des visites comme ça avec du public
Ça arrive, quand ça demande, peut-être plus souvent avec des enfants. Au printemps, là. Et puis après aussi, de temps en temps, il y a des groupes qui demandent.
C'est des classes qui demandent en général.
Ouais.
Non, c'est dans la démarche du coup du circuit court et de.
Oui, ouais. Puis voilà, puis d'ouverture un petit peu des exploitations.
C'est des brebis avec des agneaux là qui étaient venus sortir.
Ils sont gros quand même, je pensais pas que c'était. Là, ils sont bientôt prêts.
Ben, les premiers partent la semaine prochaine.
Je crois que vous avez déjà un acheteur.
Ouais, mais maintenant qu'on les a vus petits, on a presque envie de plus les manger. Hein. C'est...
Oh, mais croyez pas qu'on les emmène à l'abattoir de gaieté de cœur.
Un élevage. Donc bon,
surtout les agneaux de bergerie. Moi, ces agneaux-là, je les suis depuis 5 mois, 24 heures sur 24. Hein. Donc, ceux-là, j'ai un peu de peine à les emmener à l'abattoir. Les agneaux d'herbe, je les connais moins parce qu'ils sont dehors, on les voit. C'est plus impersonnel. Mais j'avoue que les agneaux de bergerie, que ce soit moi ou ma salariée, quand il faut trier, on a un peu de mal, quoi. Mais bon, voilà, c'est comme ça.
Tout le monde qui fait de l'élevage, il faut passer par là, quoi.
Non, mais des fois, on a l'impression qu'on est vraiment des éleveurs, des insensibles et tout, alors que... C'est pas vraiment le cas, quoi. Même des fois sous des faux airs abrupts.
C'est comme le médecin et l'infirmière, peu importe le cas, il faut...
Ouais.
Vous venez du milieu agricole ou pas du tout?
Pas du tout. Parce que moi j'ai travaillé dans des biocopes, donc c'est pas la première fois que j'en visite, mais disons qu'aujourd'hui on est retraité, on est consommateur bio, et ça nous intéresse de
comprendre un petit peu le fonctionnement. Puis on est pratiquement voisins, qui plus est. On est un tout petit peu plus loin, donc c'est bien de savoir qui fait quoi dans le coin, et voilà. Je suis très, très, très contente.
Même si c'est un petit peu compliqué, parce que justement, nous, on n'est pas cultivateurs.
Non, on imagine que c'est très simple, alors qu'en fait, c'est pas si simple que ça. Pour eux, c'est beaucoup de travail.
Donc, c'est des connaissances particulières, c'est des techniques particulières. Ah, oui. Donc, ça nécessite, c'est vrai, des connaissances. Oui.
Tu veux qu'on en parle ?
En fait, là, j'ai des... Vous allez me dire, ils sont pas dehors. C'est vrai qu'ils sont pas dehors, mais mes poussins, ils ont un mois, là. Ils ont juste un mois et je les sors à partir de 42 jours. Alors, pourquoi 42 jours? Parce que c'est un âge... On estime qu'ils sont relativement assez forts pour affronter l'extérieur. Voilà. Et aussi parce qu'on nous impose... Le cahier des charges impose un vide sanitaire du parcours, qui est de 52 jours. Moi, je fais toujours un vide sanitaire du bâtiment de 14 jours minimum. C'est ce qui était imposé par le cahier des charges bio français. Et maintenant, on est sous le, comment dire, sous le cahier des charges bio européen. Et il faut savoir qu'il n'y a même plus de vide sanitaire un peu. Voilà, c'est carrément dommage. Bon, je pense que les trois quarts des éleveurs bio, les véritables éleveurs bio respectent toujours ce vide sanitaire.
C'est une régression,
parce que,
ça.
Comment ?
C'est une régression, ça.
Ah ben, c'est une régression. Ouais. Voilà, après, chacun fait ce qu'il veut, quoi. Ouais. Mais pas... Pour des gens qui veulent faire de la volaille en bio, j'irai peut-être à plus grande échelle et tout. Je ne sais pas si c'est vraiment une bonne chose, quoi. Donc là, ils ont le parcours. Alors moi, ce qui est un peu compliqué dans mon système, c'est que j'ai effectivement qu'un bâtiment. J'ai trois bandes de volailles. Je fais trois bandes de volailles par an, toujours à même date et tout. Et je n'ai pas de marge de manœuvre. Si un jour, j'ai une bande qui marche... qui est à peine assez lourd, je me dis, bah tiens, je la garde une semaine de plus. Parce qu'en fait, un mois et demi avant la date d'abattage, en fait, on lance tout notre listing client, quoi. Et les gens prennent commande.
Ah, oui.
On propose trois week-ends, quoi. Oui. Et les gens prennent commande, quoi. Et si 15 jours avant les ventes, je dis, bah non, très très compliqué, quoi. Donc là, par contre, par rapport à là, j'ai toujours la pression. Pour la petite histoire, on n'a toujours pas de souche de poussins bio en France.
Depuis, donc les poussins que vous achetez, ils sont pas bio.
Ils sont pas, ils ont pas doré. C'est-à-dire que les parents de ces poussins ne sont pas bio, quoi. Donc en fait, c'est la souche de poussins qu'on utilise en bio, c'est les souches de poussins qui sont utilisées pour faire les labels rouges, quoi, entre autres. Donc c'est des souches de poussins à croissance lente, hein. Comparé aux souches qui sont utilisées pour faire de l'industriel, qu'on appelle les croissances rapides, quoi. C'est-à-dire qu'en croissance lente, pour faire un poulet à peu près correct, il faut au minimum 90 jours, quoi. Alors qu'en croissance rapide, bah, c'est fait en 45 jours, quoi. Donc en fait, au départ, je reçois les poussins à l'âge d'un jour. Et en fait, je cloisonne avec, à peu près au niveau des mangeoires avec des petits ballots de paille pour les confiner au départ sous les radiants, quoi. À l'âge de 10 jours, on les prend un par un pour les bailler et après je leur libère tout le poulailler, quoi.
Merci monsieur.
Merci beaucoup.
Merci. J'espère que j'ai répondu à, je sais pas, vos attentes, vos questions. J'ai beaucoup parlé.
Ah oui. On a beaucoup.
J'espère que je vous ai quand même laissé la parole.
On a beaucoup appris.
Non, moi, ça fait un plaisir.
La visite se termine, mais n'hésitez pas à la retrouver sur studiozef.fr. Quant à Pascal Cazin, retrouvez-le le deuxième week-end de juin sur le marché bio de Romorantin, sous la Halle, ou bien allez faire un tour sur son site pascal-cazin.monsite-orange.fr. Restez à l'écoute sur Studiozef. Je vous dis à bientôt, et je vous laisse en compagnie des blaireaux de Ravel avec leur titre du goudron et des plumes.
Moi je pourrais quand même pas deviner. Il y a les poules.
qui veulent se venger pour toutes les cuisses que j'ai bouffées et pour toutes celles que j'ai gâchées. Je trouve que mes potes filent.
Thank you.